Moi, Mireille, ouvrière et pas fière de l'être. Ce slogan-là me va très bien. Et je commence à en être fière alors que je ne suis pas fière d'être ouvrière, mais je suis fière de l'avoir dit. Alors, on est dans l'Est, en Lorraine, spécialement à Haucontcourt, un tout petit village, entre Metz et Thionville. Et le 17 novembre, j'ai mis un gilet jaune, j'ai été à Metz, je me suis mis sous un rond-point. Attention pacifique, je voulais juste faire voir que toute ma vie j'étais transparente et il fallait qu'ils me regardent. Et avec un gilet jaune, j'ai découvert une journée magnifique, je me sentais bien, j'ai existé. Donc j'ai manifesté ce jour-là et après ça a continué. Et au mois de janvier, j'ai suivi l'allocution de Monsieur Macron qui m'annonce qu'il va m'augmenter, moi comme petit salaire, de 100 euros. Moi je suis à un salaire bas, c'est-à-dire au SMIC, plus une paire de centimes depuis 41 ans. Et le lendemain, je réécoute des informations. Et les 100 euros se transforment du jour au lendemain en une allocation de 90 euros. Je me dis, bon, là, je retrouve la vie réelle, c'est bon, je remets les pieds sur terre. Je me suis renseignée et quand j'ai appris qu'il y avait une réunion citoyenne à Metz, je me suis dit, j'y vais, je vais écouter ce que les gens disent. Arrivé devant la mairie de Metz, qui est imposante, j'ai monté le grand escalier et je me suis sentie importante, citoyenne. Et je suis montée dans les pièces d'apparat au premier étage. J'ai analysé un peu et je me suis mise assise en retrait, le dernier rang, à un endroit que je pensais peu visible et où je pouvais voir tout le monde et écouter tout le monde. Pour regarder, plus que pour participer. Je voulais les entendre, je voulais qu'ils m'expliquent. Je pense qu'on est à peu près 150 ou 200. D'après les interventions, j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de fonctionnaires, des personnes de la mairie de Metz, des personnes qui travaillaient dans l'éducation nationale, des avocats, des gens qui travaillent dans la justice. Je ne me suis pas reconnue dans les revendications des autres personnes. C'est qu'un ressenti. Hein. On ne devait pas être nombreux à ne pas avoir de diplôme. Moi, je le vois comme ça. Pour clarifier, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens de ma catégorie sociale. La première demi-heure, j'écoute parce que j'analyse, je me dis je suis là pour écouter. La deuxième demi-heure, je pense que j'étais plus dans... C'était plus interactif, donc j'écoutais, je comprenais ce que disaient les gens, c'était très intéressant. Au bout d'une heure, une heure et demie, ça commençait à... Je commençais à avoir envie de dire à ces gens, et moi j'existe. Et je me suis levée, j'ai demandé le micro, on m'a passé le micro et là je me suis dit, tu peux plus faire marche arrière.
Une intervention ? Par ici.
Bonsoir, Mireille. Alors, c'est la première fois que je parle devant quelqu'un. Je ne sais pas si je vais y arriver. Pour moi, c'est très difficile de parler en public. C'est très difficile de parler tout court. Parce que dans mon travail, on ne parle pas. Jusqu'au bout, je me suis posé la question, est-ce que je vais le faire ou est-ce que je ne vais pas le faire? Est-ce que je peux le faire ou est-ce que je ne peux pas le faire? Alors, j'ai attendu une heure et demie, deux heures, parce que des gens commençaient à se lever. Et le fait qu'il y a des gens qui partaient un peu avant et que la salle soit un peu moins peuplée m'a permis de me lever et de dire « Moi, Mireille, ouvrière et pas fière de l'être. » Alors, je ne suis pas comme vous. Moi, je suis ouvrière, pas fière de l'être. Mon père me disait « Il n'y a pas de honte à faire n'importe quoi. » Enfin, il n'y a pas de son métier. Il n'y a pas honte à travailler en usine. Si, si, mais il y a une honte de voir comment on est traité en usine. Je n'ai jamais fait d'études. C'est la honte de ma vie. À 45 ans, je me suis dit, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais bête, et on me le dit en face, et puis on a été habitué comme ça au travail. À 45 ans, je me suis dit, Mireille, fais ce que tu n'as jamais fait. Essaye de prouver que tu n'es pas plus bête qu'une autre. Et au bout d'une heure et demie, quand je prends la parole, ça me donne une impression de... Je prends de la couleur, j'existe, je suis plus transparente. Même si je dis quelque chose qui ne leur convient pas, j'assume, je suis moi, que ça plaise ou ça plaise pas. Et c'est tellement rare dans ma vie qu'à la fin, c'est... Je suis en couleur, j'existe. Mon plus beau mot, c'est « j'existe ». Ce qui a été tellement rare dans ma vie professionnelle. À 17 ans, j'ai trouvé un emploi comme ouvrière, c'est dans le décolletage. Ça consiste à prendre des pièces métalliques et les usiner. Alors il y a de l'alésage, du molletage, on peut travailler sur des commandes numériques, sur des presses. Bref, on fait des pièces pour l'automobile, pour la métallurgie. Alors on travaille sur des machines-outils, dans l'huile, dans les copeaux, dans le froid, dans la sciure, dans les courants d'air. Et c'est pas le fait d'ouvrière qui me fait honte, c'est la manière dont on nous traite. J'ai connu des époques où, quand on venait chercher notre travail, le chef nous insultait. Et c'est le fait de travailler de nombreuses années là-dedans, on s'habitue, on trouve ça normal. C'est très rare qu'on nous appelait par notre prénom ou par notre nom. On venait, on nous disait « vous, vous faites ça, vous faites ça ». On était surveillés, très surveillés. Je ne pense pas mentir en disant que je n'ai jamais été une demi-heure sans rien faire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On travaillait 8 heures, avec un quart d'heure de pause. Et à la sonnerie, il fallait déjà être devant sa machine. On travaillait, on avait des gants. On travaillait dans l'huile, dans des copeaux. Donc les gants souvent étaient percés. Mais comme on consommait trop de gants, on remettait un deuxième gant troué sur le premier gant pour essayer d'éviter l'huile qui rentre dans les gants. Ben ça, moi, je considère que c'est pas logique, c'est pas juste. On travaillait dans un hangar. Donc, quand il pleuvait, le hangar, il y avait souvent des fuites. Donc, mon emplacement où je travaillais devant ma machine, où je ne pouvais pas bouger de 50 cm puisque l'emplacement était fixe, il y avait une gouttière. Et je vais chercher mon chef et je lui dis... L'eau coule du plafond, elle me coule sur moi. Comment je fais pour travailler? Il n'a pas été effronté, il m'a juste dit « Vous voulez pas que je vous tienne un parapluie quand même ?» Donc on reste. Les machines-outils, on travaillait, j'avais un bleu de travail, mais sur certaines machines, il n'y avait pas de protection. Donc on était mouillés d'huile, mais jusque les sous-vêtements, on était complètement mouillés. Mais ça gênait pas. Jamais on serait venu à se rebeller, dire c'est pas logique. On travaillait comme ça. Il n'y a pas de protection. On était majoritairement des ouvrières. Et la voie hiérarchique était des hommes. On avait un quota de pièces à faire. 666 pièces heure. En sachant que je prenais la pièce dans un bac avec la main droite, je le mettais dans la machine-outil, je le récupérais avec la main gauche. Et pour armer la machine, pour démarrer la machine, je tapais avec une pédale. Donc imaginez 668 fois ça multiplié par 8 heures. Pour moi, c'est un travail, mais on peut pas. Celui qui trouve son bonheur en faisant ça toute sa vie, je l'envie parce qu'il est heureux au travail alors. Je pense que si on réfléchit en usine, on est mort. La seule chose qui compte, c'est... Il faut avoir son compte pour ne pas avoir de problème. Et j'ai pris le micro et je tremblais, je bégayais. J'ai été à l'université, j'ai dit je veux savoir si je peux passer un examen, passer un bac ou passer quelque chose. Bon, on fait un test. Je passe un test, je le réussis. J'ai demandé à mon employeur de pouvoir m'aménager des journées parce que, évidemment, dans le privé, on n'est rien, on finit rien. J'ai même pas eu une demi-journée, une demi-heure de changement d'horaire pour m'aider. Je sortais du boulot, j'allais à l'université, je bûchais. On m'a dit, vous savez faire une dissertation? Non, je sais pas ce que c'est qu'une dissertation. Moi, je suis restée à la rédaction. En un an, j'ai bossé mon bac, enfin le DAEU, et je l'ai eu. Les mots étaient difficiles à trouver. J'ai parlé avec mon vocabulaire, J'ai parlé avec mon cœur, avec mon ressenti et mon humiliation. Il fallait que je le dise, que je dise qui je suis, ce que je voulais et pourquoi j'avais mal. Après, j'ai dit, quand on nous demande la participation à l'impôt, moi je suis désolée, j'ai plus envie. Je suis payée au SMIC depuis 40 ans, on me dit que je suis rien. Grassement, ils nous disent, on va vous augmenter de 90 euros. C'est magnifique, c'est le nirvana pour moi. Mon mari gagne 2 centimes de plus que le SMIC, j'ai pas le droit. Allocation, je sais pas comment ça s'écrit, j'en ai jamais eu. J'ai le droit de payer, mais j'ai jamais rien eu au retour et je ne dis merci à personne.
Merci pour ce témoignage. Une contribution très claire.
Je finis ma prise de parole en répétant, en insistant, je ne dis merci à personne. Et je le maintiens encore aujourd'hui. L'État ne m'a pas aidé, l'éducation ne m'a pas aidé, mon employeur ne m'a pas aidé. Je ne dis merci à personne pour ce que je suis, parce que je l'ai fait toute seule. C'est pas parce qu'on est ouvrier qu'on devrait être condamné à avoir toujours la même vie, qu'on n'a pas le droit à, je dis bien le droit, parce que moi je pense qu'on devrait même avoir le devoir de pouvoir progresser toute notre vie, qu'on ne doit pas s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Et je pense que en nous mettant dans une bulle, dans une cloche comme ça, eh ben, il ne faut pas pleurer en s'apercevant que les gens ne se posent plus de questions, croient à n'importe quoi. On nous abrutit devant la télé, et sans études, on n'a pas de moyen de comprendre. Le dernier qui a parlé, il a raison. Prendre la parole en public, surtout pour exposer ma vie, mes échecs, mon ressentiment, ma honte, mon désespoir, c'était quelque chose d'inimaginable il y a une paire d'années. Le fait d'avoir repris des études, le fait de savoir, plus de penser, mais de savoir que je suis capable, ça donne des ailes. Le fait de parler en public, même si la voix elle a des trémolos, même si le vocabulaire n'est pas trop sûr, le fait de parler, ça fait un bien fou. Ça fait mal et ça fait du bien en même temps. Même s'il y a eu quelques larmes, même s'il y a eu quelques mots qui n'étaient pas justes, j'ai été jusqu'au bout de ce que je voulais dire. Et j'ai eu une surprise magnifique. À la fin de mon intervention, j'étais paniquée, je me suis remise assise et puis il fallait que je récupère de mon émotion. Et des gens m'ont applaudi et m'ont félicité. Et là, je me suis dit, rien que pour ça, ça valait le coup. Je n'ai pas entendu une parole pendant tout mon allocution. Je suis très fière. Les mots n'étaient pas toujours à leur place, mais je suis très fière de l'avoir fait.